Bon, alors j'aurais, en fait, moi aussi j'en ai marre de toujours parler de la même chose. Hein. Donc je voudrais m'amuser à faire. Alors je vais parler de la thermo-industrie telle qu'elle est aujourd'hui, d'accord. Et en particulier de l'électrique, de ce que j'appelle le camouflage électrique. Je voudrais d'abord un peu m'amuser à balayer un peu le chemin de la technique et du progrès technique en parlant de quelques éléments clés du système de pensée, de la pensée technique. Et justement, d'abord, commencer par la technique. Alors, vous avez critiqué la technique, on critique la technique, on est tous là, écolo-critique, techno-critique, etc. Mais la technique, c'est d'abord une relation de l'homme avec son milieu. Je ne dis pas avec la nature seulement, mais avec son milieu. C'est d'abord une relation de communication. Si vous êtes à la campagne et que vous pêchez, vous voyez la terre, vous voyez les insectes, vous voyez les vers, vous voyez quelque chose qui vous parle. Donc la technique, elle n'est pas à rejeter en soi. En français, nous n'avons que la technique, pratiquement. La technologie, on l'utilise très peu ou dans un sens particulier. Les anglo-saxons ont une technique qui veut vraiment parler de l'objet, de la manière dont on l'utilise. Et la technologie, qui est en fait la technique ici. Et la technologie, oui, mais dans la technologie, il y a un logos. Le logos, c'est le logos de la science. C'est la science qui a perverti la technique. La technique était, je veux dire, pas toujours, était au sens que sa vision, son imaginaire a changé à travers les siècles. Mais si l'on repart du début, c'est d'abord cette relation. Qu'est-ce que c'est que l'hominisation? C'est la bipédie et l'outil. Ce sont les deux. C'est donc dans l'essence de l'humanité, il y a bien la technique. Donc la technique n'est pas à rejeter en soi. C'est la technique telle qu'elle est devenue et telle qu'elle est devenue avec le capitalisme, mais il faut le dire aussi avec la science. La prédation technologique, c'est pas la même chose que l'usage de la technique. Voilà. Donc il y a une rupture qui se fait peut-être à l'Anthropocène. On peut discuter si c'est avant ou après, mais je pense que là, avec la machine à vapeur, en tout cas, il y a une rupture dans le sens de la technique. Deuxième chose, l'énergie. L'énergie, c'est un petit peu comme le temps pour Saint-Augustin. Hein. Si on ne me demande pas ce qu'est le temps, je le sais. Si on me le demande, je ne sais pas. Et si je vous demandais, je m'amuse à le faire de temps en temps maintenant avec les étudiants, enfin, oui, avec les étudiants quand je suis en situation de supériorité, je leur dis, bon, alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Alors là, il n'y a rien. Bon, l'énergie. En fait, c'est devenu l'expression d'un travail au fur et à mesure quand on a. Ça a d'abord été le travail hein, qui a été formalisé, puis ensuite l'énergie, puis ensuite avec Sadi Carnot et Boltzmann, etc. Bon, mais ça, c'est une chose. Ça, c'est l'énergie telle qu'elle se manifeste scientifiquement. Mais sinon, l'énergie qui nous permet de vivre, elle vient de la photosynthèse, tout simplement. Elle vient du Dieu Soleil. C'est tout. À travers la plante, à travers les végétaux, à travers les animaux qui bouffent les plantes, eh bien, nous vivons. Et c'est ce qu'on appelle des collecteurs. Hein, nous sommes tous des collecteurs d'énergie. Et les pauvres collecteurs d'énergie, les arbres qui avaient fait leur temps, qui sont tombés, enfin, qui ont été recouverts de sédiments et d'autres choses pendant des siècles, jusqu'à une très grande profondeur, on les sort de leur tombe et on leur dit maintenant, hop, vous allez vivre à nouveau et vous allez nous apporter quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils brûlent et ils disparaissent à nouveau, mais ils nous laissent des traces. Et ils nous laissent des traces sur la terre, avec les scories, ils nous laissent des traces dans le ciel. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est en rapport avec le fondement même de l'existence. C'est le soleil, tout ça, c'est le soleil. Et je pense que symboliquement, on n'y pense pas assez. Donc voilà, nous sommes des collecteurs fossiles et nous sommes des collecteurs du fossile. Nous sommes des collecteurs fossiles parce que nous avons une énergie en nous. Quand nous mangeons des végétaux, quand nous mangeons de la viande, si on n'est pas vegan, bon, ben, on assimile quelque chose. La vache ou le bœuf, il a mangé de l'herbe qu'elle avait collectée la photosynthèse par photosynthèse, l'énergie du soleil, etc. Donc en fait, c'est toute une chaîne dans laquelle nous sommes. Et ça, je pense qu'on l'oublie souvent comme si l'énergie était quelque chose qui était extérieur à nous. Et je pense donc qu'il faut essayer de penser la thermo-industrie à partir de cette expression de l'énergie qui est liée, disons, à cette fascination qu'on a pour l'énergie telle qu'on la décrit scientifiquement, avec l'arrivée de la machine. Parce que la machine, elle donne, en fait, elle travaille à notre, enfin, elle travaille à notre place, bien sûr, mais elle, d'une part, elle travaille à notre place, et d'autre part, nous, elle nous met, disons, au niveau de notre collecteur, qui est l'animal. Hannah Arendt dit, nous sommes devenus des animaux laborants, hein, des animaux qui travaillent, c'est tout. Parce que la machine travaille à notre place. Donc, à ce moment-là, l'énergie change. De sens. Elle change de sens, elle devient la technologie. Cette technique avec un logos, celui du capitalisme et de la science. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est né un imaginaire qui est nouveau et qui est celui... Enfin, à ce moment-là, est né un imaginaire. Il accompagne la naissance d'un imaginaire qui est celui du progrès. Le progrès, il n'y a rien de mot plus vulgaire que celui-là, plus imbécile. C'est vraiment une crétinerie absolue. Il y a un des premiers prophètes du progrès, ce fut Fontenelle. Hein, la croissance, c'est pas encore le PIB, la croissance de la sagesse ira jusqu'à la fin du monde. Et puis de la même façon, Condorcet aussi, qui dit que la ruée vers le progrès ne connaît d'autre fin dans le temps que la durée du globe où la nature nous a jetés. Voilà. Bon, mais qu'est-ce que c'est que cela ? C'est donc introduire un nouveau concept dans l'histoire qu'on a appelé historicisme, hein, le sens de l'histoire, et aussi forger une conception du temps avant même la modernité scientifique, un temps qui est pratiquement newtonien, mais qui est orienté en plus. Newton, il n'avait pas encore orienté le temps. Il y a un temps qui est là, mesurable, substantiel, orienté. Qui est-ce qui... Alors, je ne reviens pas à Saint-Augustin, ce serait trop long si je lisais le chapitre 24 des Confessions, mais qu'est-ce que le temps ? Est-ce qu'on ne peut pas le savoir ? Alors, comment savoir ce qu'est le progrès ? Voilà, donc il y a ici quelque chose qui est de l'ordre de la métaphysique nouvelle que nous impose la vision scientifique du monde et la raison. La raison, le pauvre Condorcet qui, avec les sectateurs de la raison, va être assassiné par eux. Hein. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, qui est symbolique. Je dis symbolique parce que de Condorcet jusqu'à l'après-guerre, moi je suis de l'après-guerre, là, juste, et j'entendais toujours, mais alors là, vraiment, on ne le dit plus aujourd'hui, on n'arrête pas le progrès. Il n'y avait qu'un mot. On n'arrête pas le progrès. Pendant les 30 Glorieuses dont Jean-Baptiste, qu'avec Jean-Baptiste a illustré de sa critique, ce mot-là revenait tout le temps. On n'arrête pas le progrès. Donc voilà, il y a quelque chose d'une simplicité, d'une vulgarité, d'une absence de pensée dans la notion de progrès qui me stupéfie. Ça me stupéfie qu'il y ait des partis qui se disent encore progressistes et d'autres conservateurs par rapport aux autres. Voilà. Bon. Allez. Donc la machine, attendez que je regarde vite. La machine à vapeur, début de l'Anthropocène. Non, je ne suis pas sûr, puisque la machine à vapeur, c'était des pompes. Là, mes amis historiens le savent beaucoup mieux que moi. Je rappelle simplement que il y avait, à part l'Albion Mill, une usine qui a marché pendant un ou deux ans à Londres, c'était des pompes, hein, c'est tout. La machine, on vient de vous le dire, s'est mis peu à peu en route pendant un demi-siècle. Et vraiment, elle l'emporte que dans la deuxième partie du demi-siècle, on vient de vous le dire. Donc voilà, cette suprématie de la machine fossile va prendre un certain temps. Elle va prendre un certain temps, elle va rencontrer donc des contestations sociales, des contestations idéologiques. On l'a vu avec le petit fabliau de François. Il y a donc un ensemble de connaissances qui s'opposent à la science. Mais en s'opposant à la science... Elle s'oppose au progrès tel qu'il est défini par la raison. Donc finalement, elle perdra. Et nous sommes là. Alors, donc la thermo-industrie, c'est le fossile. Le fossile, il est embêtant parce que c'est le charbon, et il y a des scories. On ne parle pas encore de gaz carbonique, hein, mais il y a des scories, ça laisse des traces partout. Le bougna, quand il passe, il salit le sol et tout ça. Bon. Donc là, alors qu'est-ce qu'on fait ? On va dire... Je simplifie, et je n'ai pas le temps. On va dire, on va remplacer par le pétrole. Le pétrole, ça a plus d'avantages. La guerre de 14, évidemment, a été un moment très important. Il a des avantages, on peut le transporter, il ne sent pas mauvais, il ne laisse pas de traces. Et puis, ses effets toxiques sont invisibles, hein, on le saura bien plus tard. Donc, le pétrole, ça camoufle, mais c'est du fossile, mais ça camoufle. Et puis après, maintenant, nous sommes dans l'absolue modernité, le gaz naturel. Oh, le gaz naturel, c'est naturel, n'est-ce pas? C'est vert. Vous voyez les camions qui sont avec le vert, hein, c'est naturel. Il n'est pas plus naturel que le charbon ou que le pétrole. Oui, d'accord, il pollue 40% de moins que le charbon. Mais en fait, il pollue encore 60%. Vous voyez, donc, il n'y a rien de naturel là-dedans. Alors, le dernier camouflage en date, c'est l'électricité. Alors ça, c'est pas mal, l'électricité. L'électricité, on nous dit l'énergie électrique, mais il n'y a pas d'énergie dans l'électricité. Là aussi, je ne vais pas m'amuser à vous demander qu'est-ce que c'est que l'électricité. Je coince toujours les gens. L'électricité, ce sont des électrons, etc. Vous savez, c'est des charges, des ions, c'est-à-dire des atomes qui sont chargés en électrons supplémentaires et qui sont donc négatifs. Parce qu'ils ont des électrons supplémentaires. Ce sont des électrons supplémentaires qui s'en vont, là, qui naviguent dans les lignes à la vitesse de 300 km à l'heure. Pas à l'heure. À la seconde. Ces électrons-là, ils sont fabriqués comment? Ils sont fabriqués par de l'énergie fossile. Ils sont fabriqués par l'énergie, le générateur. C'est un rotor qui tourne autour d'un stator, celui qui prend les électrons, qui envoie les électrons dans les lignes et qui est en cuivre. Le rotor aimanté, il tourne autour. Tout ça, c'est un système qui est fondamentalement fossile. Il n'y a que ça, il n'y a que cette énergie-là. Alors, vous me direz, il y a les barrages. OK, d'accord, il y a les barrages. Mais 80% de l'énergie électrique est fournie par le fossile. Si on met l'uranium dedans, hein, si on met l'atome. Donc vous avez une énergie qui est propre dans la manière dont on l'utilise, mais qui n'est pas du tout à son origine. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous fait valoir que cette énergie électrique va remplacer l'autre énergie, alors qu'elle est fournie par elle, et qu'elle est totalement saine, claire, propre. C'est évidemment une mystification absolue. C'est une mystification absolue. Et cette manière dont on nous dit que les énergies alternatives ou renouvelables vont la remplacer est aussi un leurre qu'on nous fait suivre. Parce que nous avons un rapport avec Dame Nature qui est de ne pas la respecter, de ne pas suivre ses éclats, de ne pas suivre ces fantaisies. Nous ne sommes pas comme les paysans du 19e siècle ou du 18e, hein, à dire, ben aujourd'hui, on ne peut pas, les moulins ne tournent pas. Tant pis, on ne moudra pas le grain. Non, il faut que notre congélateur tourne. Et les énergies renouvelables sont toutes liées justement à Dame Nature. Les éoliennes, elles ne tournent pas comme les moulins avant, hein, auparavant. Donc il y a tout un ensemble de conditions qui font que nous ne pouvons pas supporter cette temporalité discontinue des énergies renouvelables. Par conséquent, elles sont condamnées à rester marginales. Si la croissance continue comme on la connaît, elles sont condamnées à rester marginales. Sauf si combien de temps encore ? 5 bonnes minutes. Bon. Sauf si on arrive à... Alors attendez, la première... vous pouvez mettre la première diapo. Allez. Ah bon, d'accord. Alors voilà, le capitalisme, il s'est fondé là-dessus, sur la substance fossile, parce que c'est un truc que je fais depuis longtemps, hein, mais là, je suis obligé de le dire, parce que vraiment, c'est basique. La substance qui contient l'énergie, le charbon, par exemple, on la retient, on le stocke. C'est-à-dire qu'on met l'usine à la campagne parce que les travailleurs qui sont là sont moins bien payés, ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas paysans et tout ça. Ou alors, on les fait venir à la ville en disant, écoutez, vous allez gagner à la ville et vous travaillez dans les usines. Où est stockée l'énergie? Donc, avec l'énergie, on peut faire ce qu'on veut avec le travail et la machine. Et puis, on la stocke et on la transfère. Alors, le problème de l'électricité, c'est qu'il y a deux éléments qui sont, mais pas le troisième. On ne peut pas la stocker, l'électricité. On ne peut pas la stocker, sauf dans les batteries. Mais les batteries, c'est un vieux truc. C'est la pile Volta de 1805. Depuis 1805 jusqu'à aujourd'hui, c'est de l'électrochimie qui pratiquement n'a pas changé depuis Volta. J'exagère, mais c'est pratiquement ça. On nous bassine, par exemple, avec la batterie lithium-ion, mais des ions, c'est la base de la batterie. Il n'y a pas plus d'ions qu'ailleurs dans la batterie lithium-ion. Hein, s'il n'y a pas d'ion, il n'y a pas de batterie. Donc, il n'y a rien du tout de nouveau dans la batterie lithium-ion. Il y a du lithium comme électrolyte, c'est tout. Bon, voilà. Donc, voilà, il y a la batterie, et la batterie, elle n'ira jamais loin. Elle n'ira jamais loin, et elle consomme énormément de terres rares et de métaux rares. Et puis, il y a l'autre, l'invention des chutes du Niagara et de Tesla, avec le courant alternatif, la haute tension. 1888 à peu près. Hein. Voilà. Donc la haute tension. Le système dans lequel nous sommes, celui-là là, qu'on a aujourd'hui, là derrière, hein, c'est le système électrique, le macro-système, un système gigantesque parce qu'il couvre toute l'Europe, où on se balance du courant les uns les autres quand on en a besoin. Parce qu'on ne mange pas la même heure en Italie, en Espagne, en Allemagne et tout ça. Et parce que les ouvriers ne travaillent pas tout à fait aux mêmes heures, etc. Donc, il y a toute une compensation qui se fait à travers le système électrique. Mais le système électrique, c'est une façon de faire circuler sans cesse l'électricité. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. N'est-ce pas ? Donc, voilà. Donc, il y a un déficit ontologique, je dirais, hein, post-philosophe. Un déficit fondamental dans l'électricité, c'est qu'on ne peut pas la garder. Les électrons sont libres et ils tirent la référence quand ils en ont envie. Voilà, donc c'est ça. Alors maintenant, encore deux secondes, le deuxième avantage de l'électricité, c'est qu'elle délocalise la production. La pollution, pardon. Je viens de vous dire pourquoi. Hein, parce que le générateur, il est loin. L'usine atomique, elle est loin, enfin elle est loin, relativement loin. Si elle explose, elle ne sera pas loin. Hein. Enfin bon, pour l'instant, en tout cas, on ne la voit pas. Donc il y a cette délocalisation qui est fondamentale aussi dans la perception de l'électricité comme un fait positif. C'est très très important cette délocalisation. Maintenant, j'en viens au dernier point. C'est la Chine. La Chine qu'on a évoquée. La Chine, c'est un acteur majeur de la mystification. C'est un acteur majeur. Le 73% de son électricité, en gros, parce qu'en fait, les chiffres chinois ne sont pas fiables. L'Agence internationale de l'énergie les garde. Bon, okay. 73% de l'électricité vient du charbon. Et alors, ces champions de l'électricité, des voitures vertes, du numérique, etc., eh bien, ils font tout rouler leurs voitures avec le charbon qui vient du Xinjiang, à 3000 km pour Pékin, un peu moins pour Shanghai, pour Canton encore moins, mais des lignes, elles vont jusqu'à 3200 km, avec des tensions, avec une tension de 1 100 000 volts, n'est-ce pas ? Cette tension, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de pertes. Tout ça, ça fonctionne au charbon. Alors évidemment, Shanghai redevient relativement propre, mais pour la planète, c'est la même chose et c'est simplement bien pire. Donc il n'y a aucun recul, il n'y a aucune tentative de... On vient de le dire avant moi, hein, il n'y a aucune tentative réelle pour la transition. La transition, c'est un mot vide de sens. J'insiste là-dessus, c'est un mot vide de sens et on va continuer à nous le fournir. Il faut se révolter contre ce terme-là et utiliser, je ne sais pas quel mot, mais en tout cas utiliser notre conscience pour dire non, nous n'en voulons pas. C'est autre chose.